Joie, une certaine fierté et même une pointe d'émotion à l'heure de commencer cette émission. Il faut dire que nous ne sommes pas dans l'habituel studio module qui nous reçoit ou même en reportage dans le sud de la France. Non, nous sommes au cœur de Paris, dans ce superbe monument de la Gaîté Lyrique, invités à enregistrer cet épisode de La Terre à Boire au Paris Podcast Festival, dont c'est déjà la 5e édition. Et nous sommes en public. Voilà. Merci beaucoup d'être tous ici. Le vin, depuis bien longtemps, fait l'objet de représentations artistiques, intellectuelles, graphiques, littéraires, musicales. Au-delà de notre quotidien, que l'on soit amateur de vin ou pas d'ailleurs, il fait partie de notre imaginaire. Et comme tout autre sujet, la manière dont on choisit de parler du vin influe sur la représentation que l'on s'en fait. Dès 2017, alors que le podcast en était encore à ses balbutiements, plusieurs voix ont émergé pour s'emparer du sujet du vin, vite rejointes par d'autres, chacun, chacune, apportant sa touche personnelle, ses propres préoccupations, choisissant de mettre en avant telle ou telle problématique, valorisant tel ou tel axe du sujet, le vin lui-même, bien sûr, la façon de le faire, mais aussi de le déguster, le vendre, le promouvoir. Certains ont pris un angle géographique, du raisin et des papilles en Alsace, tire-bouchon dans le sud-est, d'autres proposent des portraits intimes de vigneronnes et de vignerons, ou d'autres professionnels, sommeliers, agents, restaurateurs, négociants, etc. C'est par exemple le créneau de Yann Diologent et ses sourires du vin. Sans oublier celles et ceux qui décident d'emmener les micros dans les domaines pour mieux y ressentir la force du terroir, les copains du bon grain de l'ivresse font ça très bien. Fille de vigne a débarqué en 2021 dans ce paysage, dans le sillage de Radio Vino, la web radio consacrée au vin, imposant très vite ses thèmes et son ton singulier. Il est question ici de féminisme et de vin nature. Le traitement est fluide, immersif, rigoureux, volontiers littéraire. Cela tient sans doute à la voix qu'il incarne et qui se tient à côté de moi. Les vigneronnes interviewées, puisque ce sont toutes des vigneronnes, évidemment, les filles de vigne, elles ont toutes quelque chose à raconter de précieux sur leur vécu de cultivatrice, de femme, de fille, d'épouse, de mère. En 17 épisodes, pour l'instant, c'est un panorama complet qui nous aide à mieux comprendre leur univers et les défis qu'elles relèvent au quotidien, qui nous aide aussi à appréhender les bouleversements du monde, le monde du vin, bien sûr, mais pour tout dire, le monde tout court. Ainsi, lorsque nous avons reçu l'insigne honneur d'être le premier Winecast invité au Paris Podcast Festival, le choix de nos invités, justement, s'est tout de suite imposé. Ce 98e épisode s'intitule « Vive les filles de vigne » et il est enregistré en live au 5e Paris Podcast Festival. Bienvenue dans La Terre à Boire.
Merci beaucoup, Romain.
Bienvenue, merci, Romain.
Alors, c'est très impressionnant d'avoir autant de monde devant soi. Quand on est dans le petit studio, c'est beaucoup plus simple. Au micro avec moi, pour La Terre à Boire, l'ami fidèle, Patrice Defay est là. Bonjour, Patrice.
Bonsoir, enchanté. Je vois qu'il y a quelques fans déjà au deuxième rang, c'est gentil d'être venu.
Et il n'y a pas la famille, hein, je dois le préciser.
Il n'y a pas la famille, oui, tout à fait.
Donc ça nous touche d'autant plus. Et pour représenter Filles de Vigne, nous avons donc la joie d'accueillir Marie-Ève Lacasse. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Romain.
Et l'autre producteur de Filles de Vigne, dont on n'entend jamais la voix dans le podcast, mais dont la patte sonore est omniprésente, bonjour Laurent Le Coustumaire.
Bonjour Romain.
Alors, d'abord, merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous recevoir. C'est vrai que, comme j'ai dit dans l'intro, quand on a eu la chance de recevoir cette sollicitation du Paris Podcast Festival, qui nous a dit, sur cette session du samedi après-midi, c'est sympa que les podcasts invitent d'autres podcasts, ça nous a paru assez naturel, en fait. Voilà, on va revenir.
Mais c'est un honneur. Merci beaucoup, Romain.
Ça nous fait plaisir. Pour faire découvrir Filles de Vigne, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, et puis aussi parce que les sujets qui vont nous occuper aujourd'hui, quelque part, on pense que vous avez des choses à apporter de ce que vous pensez vous-même, et puis aussi des rencontres que vous avez pu faire avec toutes ces vigneronnes que vous avez interviewées. C'est justement le programme de cette session. Ça va être de parler d'abord de Filles de Vigne, un peu, de l'histoire de ce podcast et de ce que vous pourrez y entendre. Et puis, dans une deuxième partie, on va quand même s'atteler au thème que nous a transmis, confié, imposé, si je peux dire, le Paris Podcast Festival, qui, comme vous le savez peut-être, cette année s'appelle Les Puissances de la Douceur. On va avoir l'occasion d'y revenir. Comment donc cette notion de puissance de la douceur peut se transférer,
s'incarner
dans le vin. Ça, c'est le programme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on commence par ce qui est devenu une tradition dans notre podcast, c'est de déguster un vin. Donc il y a des gentils bénévoles.
C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on fait ce podcast.
C'est pas
faux. D'avoir une bonne raison mais de pouvoir déguster du vin.
Non, mais ça il ne faut pas le dire.
on peut le dire et l'assumer pleinement. C'est vrai que ça a été l'occasion de déguster beaucoup de vins. Et en général, des bons. Le vin qu'on vous sert et qu'on a également servi à notre table, et si vous voulez, on va du coup déguster ensemble, c'est la cuvée La Terre à Boire, qui est un vin qu'on a concocté avec un des participants du podcast, qui s'appelle Philippe Viette, qui est un ami depuis longtemps et qui, depuis quelques années, a opéré une reconversion. Il était consultant à Paris et il est devenu vigneron en Beaujolais. C'est pas seulement parce que c'est un ami, c'est aussi parce que ces vins nous plaisent beaucoup. On aime beaucoup le Beaujolais à La Terre à Boire. Si vous écoutez des fois l'émission, vous le savez. On aime le Gamay, ce cépage typique du Beaujolais, le cépage emblématique du Beaujolais. Et on trouve que Philippe, on fait un traitement qui est parfaitement dans l'air du temps. C'est peut-être un peu dépréciatif de dire ça, mais en tout cas dans le goût de l'époque. C'est-à-dire des vins qui sont simples, faciles d'accès, fruités, qui ont du goût, qui ont quand même de la puissance, mais qui ont surtout un gros facteur plaisir. On a des verres, vous avez des verres. Je vous propose qu'on s'applique d'abord cet exercice de la dégustation, messieurs, dames. À la vôtre. Est-ce que tout le monde est servi d'abord?
Non, pas tout le monde est
servi. Il y a des gens qui disent non.
Ça ne serait servi.
Ça ne va pas assez vite.
Donc, il s'agit d'un Beaujolais. Pour rappel, trois appellations en Beaujolais. Beaujolais, ce qui est le cas de ce vin-là. Beaujolais Village, et puis les 10 grands crus que vous connaissez, Morgon, Bruy, Côte de Pic, etc. Donc là, on est sur un simple Beaujolais, mais c'est la première vigne que Philippe a vinifiée. On est en 2020, donc il a déjà deux belles années derrière lui. Et à vous de voir, on est sur un vin, comme on dit, d'apéro, même si les amalgames sont un petit peu vite faits. Mais c'est un vin plutôt facile à boire.
Laurent, toi qu'on n'entend jamais dans le podcast.
Alors, il y a des petits moments où on m'entend au loin, notamment au premier épisode de la deuxième saison. Mais quelle est ta question?
Non, des réactions sur ce vin.
C'est effectivement très agréable à boire, mais il y a une forte... c'est très mûr. Donc, je suis assez étonné qu'il fasse que 12 degrés. J'ai l'impression que je sens aussi plus de force d'alcool. Ça reste tout à fait facile à boire. Mais comme on dit, belle maturité, ouais. Donc ça, c'est très très agréable. Ouais.
Alors c'est un vin qui est 2020, Patrice l'a dit. Entre guillemets, théoriquement, c'est un vin qui se boit plus dans l'année suivante. Nous, on est content de constater que deux ans plus tard, il a encore de la tenue, il n'a pas de défaut évident, il ne s'est pas éteint, il n'est pas endormi, il a encore de la puissance. Donc on pense qu'il peut encore tenir encore quelques années. Et je confirme qu'avec les barbecues d'été, ce n'est pas du tout la saison, quoique, c'est merveilleux. Marie-Ève, tu aimes ça le Beaujolais, toi?
J'adore le Beaujolais. Le nez est assez chaud. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épicé. Et puis en bouche, ça reste un Beaujolais, un gamay assez classique, buvable, comme tu l'as dit. Je ne sais pas si on se tutoie ou si on se vous voit.
On va se tutoyer. Il n'y a que sur France Inter qu'on se vous voit obligatoirement.
D'accord. Non, je le trouve très agréable, même si j'ai une petite surprise en bouche. Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui veulent partager un avis sur le vin?
Visiblement, personne ne l'a recraché.
Sur la dégustation.
Donc, jusqu'ici, tout va bien.
On n'avait pas fourni de crachoir, Patrice. C'est peut-être pour ça. Alors, gardez vos verres. Si vous êtes à sec, faites signe, il y en a d'autres. Et on va passer aux choses sérieuses. Puisque quand même, c'est pas tout ça. Mais il y a un programme. Non?
Filles de vigne, une série podcastable sur les femmes dans le monde du vin. 40% des professionnels du vin sont des femmes. Mais où sont-elles et qui sont-elles? Filles de vigne donne la parole aux vigneronnes, sommelières, maîtres de chais, profs, œnologues et femmes journalistes qui travaillent dans le milieu du vin. De la Loire au Languedoc, de la Champagne au Jura, nous garderons nos micros ouverts à la recherche de celles qui font et boivent du bon vin.
c'était le générique. Pas tout à fait le générique, une sorte de bande-annonce de Fille de Vigne. Il y a beaucoup d'extraits qu'on aurait pu prendre, aller piocher, diffuser. On n'a pas énormément de temps, donc on a mis cette... On a 45 minutes pour l'émission, donc on a mis cette bande-annonce pour donner une petite idée. Comment est né ce projet Fille de Vigne, Marie-Ève?
Alors c'est né juste après le Covid. Laurent et moi avions la chance de vivre dans la Drôme pendant quelques mois. Et puis, on était entouré de vignes, de vignerons absolument magnifiques. Et puis, on s'est dit... Laurent travaillait pour Radio Vigneux depuis quelques années. En fait, Laurent a carrément fondé Radio Vigneux.
Avec l'ami Thierry.5, qu'on salue. Voilà.
Et on s'est dit, quand même, il y a quelque chose qui reste un angle mort du milieu du vin, c'est la voix des femmes. Ça commençait à émerger un petit peu, notamment par des gens comme Fleur Godard, qui sont des figures radicales du milieu du vin qu'on entend. Mais en 2020, c'était encore un tout petit peu...
L'association Women Do Wine, qu'on peut citer aussi.
Tout à fait, Isabelle Perrault. Donc plusieurs femmes comme ça, mais c'est vrai qu'on se disait que d'un point de vue journalistique, il n'y avait pas eu un travail de fond en radio ou en presse écrite autour des femmes du milieu du vin. Et donc notre première exploration, ça a été au domaine Gramenon chez Michel Aubéry. Et c'est un moment un peu étrange parce qu'on est arrivé un peu les mains dans les poches sans être tout à fait préparé. Et c'est là où j'ai réalisé que Michel Aubéry était une femme extrêmement importante de l'histoire du vin en France, voire dans le monde. Une des pionnières du vin naturel qui fait des vins absolument sublimes dans son domaine mythique qui s'appelle donc le domaine Gramenon qui est à Montbrison-sur-Lay dans la Drôme. Et puis petit à petit, je me suis dit, bon, il y a quand même toutes ces femmes qui travaillent dans le milieu du vin, qui sont souvent un petit peu mises à l'écart au profit de la voix de leur mari ou de leur frère ou même de leur propre fils. Et parfois même, leurs noms n'apparaissent pas sur les étiquettes alors même qu'elles ont travaillé à la vinification ou à la vigne. Est-ce que ce ne serait pas le moment de les faire parler ? Et c'est comme ça qu'est né le projet. Et petit à petit, grâce à une campagne de financement sur Ulule et puis d'autres sources, on a obtenu une bourse notamment d'une fondation. On a parcouru tous les terroirs français et un petit peu à l'étranger.
En Suisse, en Italie.
À chaque fois avec cet angle qui était celui des femmes qui travaillent dans le milieu du vin. Mais être une femme ne suffisait pas pour notre casting. Il fallait déjà qu'il y ait une belle histoire et un engagement politique fort. C'est-à-dire être capable de soulever de manière assez fluide des problématiques féministes. Qui pouvaient être à la fois des questions de légitimité, de violence, d'exclusion, de validation. Voilà. Parce que, évidemment, être une femme qui fait du vin dans un registre conventionnel, en détruisant la nature, il y en a aussi. Et ça nous intéressait un petit peu moins de les interviewer. Donc la question du genre ne suffisait pas.
Donc, quand je résumais par deux piliers, féminisme et vin nature... C'est l'idée,
c'est bien résumé,
c'est bien la structure. On va peut-être reparler du côté vin nature, mais c'est un engagement aussi fort. En quoi, selon toi, ces deux engagements sont indissociables ?
C'est une question que j'ai souvent posée aux vigneronnes qui me renvoyaient à des théories écoféministes, parfois sans même avoir lu les théoriciennes. En réalité, les femmes qui travaillent de façon respectueuse de la nature ont... un rapport à la vigne qui est celui de l'écoute, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas orienter la vigne, orienter l'agriculture ou leur viticulture pour faire de la surproduction. Au contraire, elles sont souvent dans des méthodes douces de viticulture. Elles vont utiliser, par exemple, la traction animale plutôt que le tracteur. Elles vont travailler au rythme du pas. Elles vont faire beaucoup de choses de façon manuelle. Elles vont souvent aussi avoir des relations respectueuses avec leurs employés. C'est toute une philosophie qui fait que leur rapport à la nature est beaucoup plus celui de l'écoute plutôt que celui de l'extraction, l'extractivisme ou du productivisme à outrance.
De l'exploitation. On parle d'exploitation agricole. Là, on est dans un rapport plutôt de douceur. On y reviendra après, mais chacune des deux parties, le vigneron et la nature ou le vignoble, sont autonomes dans leur propre espace, quoi. C'est la rencontre des deux qui fait la quintessence.
Oui.
Non, je me demandais si Laurent voulait pas compléter, parce que je ne veux pas invisibiliser l'homme.
Alors, c'est pas grave, c'est déjà. Non, vous aurez remarqué, vous verrez qu'on est un peu comme les pinsons Charlot. Il y a Michel, feu Michel, malheureusement, qui est un peu l'homme de l'ombre, et puis il y a celle qui sait très bien parler. Voilà, tu es Monique.
Enfin, quand même, on t'a quand même donné un micro, Laurent. Donc,
tout à fait.
N'hésite pas à dire, à donner ton avis.
J'interviendrai.
On rencontre, à travers ces, du coup, j'ai dit 17 portraits, un nombre de situations extrêmement variées. La femme, je pense à Catherine Bernard, journaliste reconvertie vigneronne, la fille d'eux, la femme d'eux, la sœur d'eux.
Le couple de femmes.
Le couple de femmes qui se séparent et continuent d'être vigneronnes ensemble pendant plus de 15 ans. C'est un épisode aussi assez passionnant.
Elles sont séparées depuis 5 ans, mais...
5 ans. Pour moi, les années, c'est comme le vin. On en met toujours un peu plus. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir couvert comme ça, ce que je disais tout à l'heure, une sorte de panorama, l'ensemble des facettes de ce à quoi sont confrontées les femmes du vin? Je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'il me semble qu'il y a une intervenante qui, justement, fait cette distinction, quand on l'emmène sur le terrain du genre, entre des pratiques qui seraient de l'ordre du féminin, sans forcément qu'elles soient... pratiquées par des femmes, et des pratiques qui seraient de l'ordre du masculin, plus de l'intervention et du pouvoir, et qui dissocient ça du fait que ce soit pratiqué par un homme ou par une femme. Est-ce que c'est...
Alors oui, beaucoup de vignerons, vigneronnes nous ont dit à chaque fois les vins féminins, ça n'existe pas, voilà. Et donc se dégage en permanence de la question du genre. Néanmoins, il y a une vigneronne qui m'a beaucoup marquée, enfin elles m'ont toutes beaucoup marquée, mais il y a quand même certaines paroles qui sont très touchantes et très prégnantes, et je pense à Marie-Thérèse Chapa en Suisse, qui nous a dit « Le féminisme, ce n'est pas suivre l'exemple masculin de la réussite. » Et c'est quelqu'un qui travaille en biodynamie, qui a élevé seule sa petite fille, qui est aujourd'hui grande, qui a plus d'une vingtaine d'années, qui ne veut pas travailler dans le vin par ailleurs, et qui a expliqué que toute sa vie, le fait d'être seule dans son exploitation, ou quasiment, l'a obligée à être dans un rapport très très lent aux choses, lent au travail, lent à la production, et qu'au final, c'est probablement cette lenteur qui a fait en sorte qu'elle produise du si bon vin. Et bon, c'est pas une référence absolue, mais elle a quand même reçu 2x99 au Parker, c'est une des plus grandes vigneronnes du monde. Et donc, il y a quand même ce rapport au travail qui, à mon sens, ne correspond en rien à un idéal de pouvoir qu'on associe souvent au masculin ou à un ensemble de valeurs qui concernerait aussi la possession ou même une forme de violence. Elle, au contraire, elle dit pour réussir, il faut surtout pas suivre le modèle des hommes. Et je trouve ça très inspirant, à vrai dire, comme parole.
Et ça veut nous emmener tout droit vers notre deuxième thème.
Oui, parce que par ailleurs, il faut ajouter, tu dis, elle travaille seule, elle a 15 ou 10 employés, etc. Donc elle est chef d'exploitation, mine de rien, et elle le fait d'une manière différente. Ouais, tout à fait.
Elle dit d'ailleurs que, si on est toujours sur Marie-Thérèse Chapa, que c'est très, très, très difficile pour elle d'être chef, justement, de cheffer.
Diriger n'est pas quelque chose qu'on enseigne aux petites filles. Et c'est vrai que beaucoup de vigneronnes qui se retrouvent à leur corps défendant à diriger des exploitations nous ont souvent expliqué à quel point elles trouvaient ça difficile de diriger, de donner des ordres, de se faire respecter, de se faire écouter. Et souvent, par des hommes, bien sûr. Et souvent, ça passe par l'exemple, par un management assez doux. Voilà.
J'aimerais, avant qu'on passe au deuxième sujet, qu'on dise un mot sur le traitement. Filles de vigne, donc c'est un thème, un sujet, une approche de cette thématique, le vin, mais pas voilà, dans un certain angle. C'est aussi un traitement sur le son. C'est des interviews plutôt intimistes, avec un son évidemment très, très propre. C'est du montage. Moi, j'ai noté à l'os. Quoi. C'est-à-dire, c'est, il n'y a pas de gras. On est vraiment sur le contenu. Chaque phrase est signifiante. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nettoie les éventuelles hésitations, les choses comme ça. Et du coup, on est porté par un flow très, très agréable, très immersif. Et en plus, je me tourne vers toi, Laurent, parce que c'est toi qui fais le son de Filles de Vigne. Tu rajoutes des nappes de musique parce que tu es musicien aussi, en plus d'être philosophe.
Aussi, oui. Et non, tu as raison, tout ça est très, très nettoyé. Alors, c'est à la fois par... parce qu'on est un peu des psychopathes tous les deux.
Par maniaquerie.
Par maniaquerie. Et que écouter 20 fois la même, les phrases, les E qui sont au milieu deviennent insupportables, même si en fait on pourrait les laisser, hein, les gens parlent comme ça. Du coup, on ne s'est pas concerté, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de projet particulier, d'intention, mais ça s'est fait comme ça naturellement. La musique, même chose. On voulait éviter tous les problèmes de droit, etc. Donc, comme je fais de la musique et que j'enregistre de la musique depuis très très longtemps, on a utilisé des morceaux que je fais, et ensuite je me suis mis à faire, et comme tu l'as noté, pour faire des respirations ou des petites virgules, voilà, il y a des nappes, il y a des choses, ça évolue, ça change un peu tout au long des saisons. Et ça donne probablement un peu l'identité, ouais, le ton aussi du podcast.
Okay. Ça fait un objet podcast très très épuré. Ça dure quoi, 20 minutes en général à peu près, Vie devine ?
Ça commençait très court, par des 5-7 minutes, parce que, alors c'est aussi, il faut dire, on le fait tous les deux, mais essentiellement Marie-Ève qui fait le plan du montage, l'intention, le côté plus journalistique, on va dire. Et au début, voilà, on était 15 minutes. Sur le même épisode, on avait 15 minutes, puis 12, puis 10, puis 7. Et à la fin, on se dit, il faut qu'on arrête de couper. On a fait un effort à partir de l'épisode de la Champagne, où on avait beaucoup de matériaux. On a fait effectivement un épisode de 20-25 minutes, qui a été des journées de travail. Et ensuite, on est arrivé sur sur ces longueurs-là, qui sont à la fois longues et courtes.
C'est un objet très, à la fois très travaillé, au final très épuré. Et très agréable à écouter. Je sais pas si les gens du public ont déjà écouté Fille de Vigne, mais c'est vrai que c'est une petite, enfin c'est un bonbon assez doux qui dure 15-20 minutes et qui est très très agréable à écouter.
Et la dimension littéraire également pour moi est importante. Donc, toi Marie-Ève, tu es autrice, écrivaine, journaliste, tu as déjà publié plusieurs livres chez Flammarion notamment, et c'est important pour toi d'apporter je pense à plusieurs épisodes dans lesquels tu parles d'un livre, tu parles du livre de Claire Marin sur la place, c'est pas le titre exact, mais...
Être à sa place.
Être à sa place, voilà. Et fréquemment, tu lis des passages de texte dans le... Voilà, entre deux bouts d'interview. Ça aussi, c'est une volonté d'appuyer le discours ou de... C'est quelque chose. Alors, qui vient naturellement, j'ai envie de parler de ça.
Le grand choc pour moi de Fille de Vigne, ça a été de découvrir à quel point l'agriculture était proche de la culture. Et je n'ai pas grandi dans un environnement agricole ni rural. Et les voix, ce que les femmes vigneronnes m'ont enseigné, est aussi riche et profond et précieux dans ma vie que des lectures de philosophes ou d'écrivains. C'est quelque chose qui m'a bouleversée, à vrai dire, dans ma hiérarchie du savoir, où finalement, peut-être qu'en raison de, je sais pas, mon éducation, c'est comme s'il y avait que la haute culture qui comptait et la parole des paysans, bon, elle était sympathique, mais sans plus, alors qu'en fait, j'y ai trouvé une profondeur qui m'a fait une sorte de révolution copernicienne. Et en tant que littéraire, parce que vous l'avez soulevé, tu l'as soulevé, j'écris des bouquins. C'est évident que pour faire une belle voix off d'introduction, le mieux est évidemment d'aller piocher dans la bibliothèque pour faire aussi parler les œuvres qui sont intéressantes. Et ce carambolage, cette rencontre, enfin, parlons d'une rencontre plutôt qu'un carambolage entre l'agriculture et la culture, se fait tellement bien, tellement naturellement que voilà, j'ai voulu mettre en parallèle ces deux mondes.
Et ça fait du sens à chaque fois. On a d'ailleurs l'impression, c'est dans le choix de vos intervenantes aussi, hein, c'est y en a plusieurs qui sont vraiment littéraires dans leur, enfin, en tout cas dans leur élocution, dans leur façon de parler, dans la richesse du vocabulaire des phrases, dans la théorisation de ce qu'elles défendent. Voilà, nous on a tous la problématique quand on fait un podcast sur le vin, de se dire est-ce que c'est entre guillemets un bon client ce vigneron, est-ce qu'il parle bien de, est-ce qu'il va pas être intimidé au micro, voilà. Et quand on a la chance d'avoir un vigneron qui nous explique et qui nous transmet quelque chose et qui a la bonne élocution, on est ravi. Mais alors là, vous faites carton plein parce que.
Inutile de dire que c'est aléatoire quand même. Oui. Évidemment, on garde
vous
les choses.
Des castings.
Pas vraiment, mais qu'on garde les choses les plus riches et les plus signifiantes. Ouais, ouais.
Alors, je dois quand même dire que chez les vigneronnes nature, j'ai vu des bibliothèques quand même à faire pâlir n'importe quelle bibliothèque de chercheurs universitaires où il y avait des livres de Omar Khayyam, des livres d'extrême gauche aussi très souvent sur l'engagement paysan. Ces vigneronnes avaient beaucoup lu avant de devenir vigneronne de cette manière en réalité, et donc enfin moi j'avais l'impression qu'on était du même monde en réalité.
Ça fait partie, je pense, de la, on en vient à se dire que ces vignerons qui font ces choix là ne les font pas par ni habitude ni transmission directe, mais par une conviction, et c'est peut-être que de cette réflexion intellectuelle que naît la conviction justement.
On a eu différents cas de figure. Il y a quelques néo-vignerons qui ne venaient pas du milieu viticole. Et puis aussi des familles très anciennes. Je pense à Hélène Thibon, qui vient d'une famille viticole depuis le XVIe siècle et qui était transcendée à la fois par un savoir paysan et aussi un savoir d'instruction plus classique.
Le temps avance. Je vous l'ai promis, on a un peu préparé nos sujets. On va donc parler de la douceur pour finir cette mini première partie. Et ben, voilà, je vous invite tous à aller découvrir les 17 épisodes de Filles de Vigne qui effectivement s'écoutent comme une douce musique à nos oreilles. Parlons de douceur. Et pour l'introduire...
Ah, monsieur. Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférerais un demi-doux.
Voilà, j'aurais préféré un demi-doux. Alors pardon, parce qu'on a déjà glissé cet extrait dans un épisode qu'on avait consacré au vin doux, justement. C'est le grand restaurant, Louis de Funès, propriétaire du restaurant Septime, qui se déguise et va auditer un petit peu ses serveurs, en l'occurrence de serveurs. C'est Paul Prébois, qui a tout en lui pour faire énormément de choses, mais serveur, a priori, c'est pas vraiment son truc. Et on en arrive à cette question des vins doux et demi-doux. Qui n'existe pas, le demi-doux, évidemment, hein, c'est le demi-sec. On va y revenir sur les vins doux, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais par contre, ce thème de puissance de la douceur que le Paris Podcast Festival a choisi donc, pour cette cinquième saison, d'abord, c'est un concept posé par une philosophe, Anne Dufour-Mantel, dans un livre qui s'appelle « Puissance de la douceur ».
Que j'ai lu pour cette émission. Les puissances de la douceur, je pense que c'est tout à fait en lien avec le monde du vin. La douceur, globalement, on peut dire que c'est trois choses. Il y a trois facettes dans les définitions de la douceur. La première, il y a une facette sensible. C'est la qualité de ce qui procure un plaisir délicat. Donc, avec la notion de plaisir et la notion de délicatesse, on a bien la dimension sensible de la douceur et je pense la dimension sensible du vin. C'est aussi une qualité éthique. Et je pense que toutes les vigneronnes que Filles de Vigne ont interviewées ou nous, un certain nombre de vignerons que nous on a interviewés ont cette qualité. C'est vraiment la qualité morale de ne pas heurter de ne pas heurter autrui, d'être à l'écoute, d'être dans le côté conciliant et dans l'affect. Et c'est surtout la qualité d'un mouvement progressif, la douceur. Et c'est un petit peu la métamorphose lente et permanente. C'est des pensées très asiatiques. On a un peu de mal en Europe. On aime bien un blanc-noir et que les choses évoluent de manière immédiate entre un 1 et un 2. Les philosophies asiatiques, je pense, c'est très, très en lien avec les philosophies des vignerons, ont cette nécessité d'être... à l'écoute en permanence et l'évolution se fait lentement dans la douceur, c'est trois choses là. Et après la puissance de la douceur, la puissance c'est ce qui peut amener à modifier, à avoir une influence sur les choses. Et elle s'exprime aussi très très bien dans le vin, parce que les puissances, c'est ce qu'on disait, c'est la puissance de l'écoute. Et c'est un petit peu comme un psychanalyste qui doit être dans une écoute pour aller chercher un peu les fantômes d'une personne. Je pense que le vigneron doit être aussi à l'écoute de son vignoble pour aller écouter les côtés très mystérieux et cachés de la nature, pour être vraiment en résonance avec lui. Donc après, il y a plein d'autres sujets, mais je pense que c'est la puissance de la douceur s'exprime dans le respect de la nature, parce que la douceur, elle laisse s'exprimer les deux intervenants du rapport de manière autonome, sans diriger l'autre. Donc là, les grands vignerons en général et les grandes vigneronnes, c'est ceux qui arrivent à interpréter leur terroir sans imposer des choses trop violentes à leur vignoble.
Marie-Ève, quand je t'ai parlé, quand je t'ai proposé de venir faire cette émission, où je t'ai dit le thème c'est puissance de la douceur, il y a eu. Alors moi, quand j'en ai parlé dans l'équipe, il y a eu un blanc. Attends, ça processe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur le vin avec puissance de la douleur? On a trouvé douceur, pardon, lapsus compliqué. On a trouvé assez vite des choses à dire. Toi, tu m'as répondu assez spontanément. Ah mais oui, il y a plein de choses à dire. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas rencontré les mêmes vignerons que nous et que justement ces vigneronnes, comme le suggérait Patrice, elles sont aussi dans cette approche d'écouter le vivant.
J'ai l'impression que puissance de la douceur, c'est le synonyme même du vin. Il y a cette Catherine Bernard, on parle toujours d'elle, mais c'est parce qu'on l'adore.
Parce qu'elle est formidable.
Elle est formidable. Elle a écrit plusieurs livres. C'est une vigneronne qui était journaliste à Libération et qui a tout arrêté pour avoir un vignoble dans le Languedoc, qui est partie de rien du tout et qui a une histoire formidable. Et un jour, elle m'a dit en voiture, Laurent était là, on était dans des bouchons, et elle a dit « Le vin est à la frontière du bien et du mal ». Et je trouve que dans cette phrase, il y a toute une philosophie peut-être orientale que je ne suis vraiment pas spécialiste. Mais en tout cas, dans cette histoire de puissance de la douceur, il me semble que le vin se situe exactement à cette frontière tentatrice aussi, hein, de verser dans le mal. On n'a pas toujours envie de se faire du bien, contrairement à toutes les philosophies New Age rampantes. Et puis aussi, bien sûr, du bien, puisque c'est délicieux. C'est bon, c'est difficile de résister à ça. D'ailleurs, bon, j'espère qu'on pourra vous faire goûter ce que nous allons goûter.
C'est bon, mais c'est dangereux.
C'est ce qui est écrit sur les paquets de clopes aussi, non?
C'est surtout dangereux, les paquets de clopes. C'est pas bon.
Ça parle surtout, oui. Ça parle surtout de modération dans le cas du vin. Après, il y a quelque chose qui est important dans, évidemment, puissance de la douceur. Pourquoi ce choix? C'est que c'est un oxymore. Hein. En tout cas, pour les Occidentaux, c'est un oxymore. On a l'impression que les termes sont contradictoires. Pourquoi donc ça questionne le concept qu'on a de chacun des deux termes. Et en fait, pardon, hein, je spoil ou je fais la transition à ta place, mais voilà, c'est quoi la douceur? Pourquoi est-ce que la puissance, pour nous, c'est forcément quelque chose d'assez violent, voire d'assez viril? Je me permets de raccrocher un peu les wagons. Et pourquoi, donc, pour nous, puissance de la douceur, c'est un oxymore? Très bel oxymore, mais un oxymore. Hein, c'est un peu une sorte de contradiction dans les termes.
Et pourtant, la puissance n'est pas le contraire de la douceur.
Oui, non, mais ça nous amène à questionner justement
Si on reprend le livre d'Anne de Fourmentel, la douceur était signe de puissance à l'époque.
Oui, on parle de maintenant. Hein, ouais.
De l'Odyssée, Achille est très puissant parce qu'il laisse le roi venir récupérer son fils. Et la notion de l'association de la douceur à la faiblesse est née malheureusement avec la culture judéo-chrétienne. Et alors que initialement, la douceur était quelque chose associé à la force. Force effectivement du consentement, ouais, force
de la compréhension.
De compréhension, etc., etc.
Si on essaie d'être concret dans la vigne, comment se traduisent, parce qu'il y a pas mal de champs dans lesquels on peut décliner ce concept. Il y a la conduite de la vigne d'abord. Être doux ou ne pas être doux, ça veut dire intervenir, désherber, chimiquement, manuellement.
Alors, il y a même quatre niveaux. Enfin, nous, on avait vu, quand on a interviewé Laurine Laborde, il y a d'abord être doux avec le sol. C'est-à-dire que pourquoi on prend un cheval? Parce qu'on ne veut pas tasser les sols. On veut que le sol soit aéré. Et ensuite, même le travail du cheval lui-même, Laurine Laborde nous disait, qui est en Jura, nous disait, bah, si je ne suis pas doux avec le cheval est une éponge, il va le sentir et il va mal réagir. Donc la douceur, c'est la meilleure manière, entre guillemets, d'être doux avec le sol, et même le rapport à l'animal nécessite la douceur. Et après, on parlait de la douceur au sens de l'écoute, d'avoir les pores ouverts. C'était dans Fille de Ville, Marie-Yves Chappaz qui dit « Moi, le gamet dans le Valais, en Suisse, hein, s'il a envie de partir à droite, il ne faut pas que je le contraigne, il ne faut pas que je le rogne. Rogner, c'est couper le haut. Mais voilà, quand je suis en écoute de la vigne, il faut que je suive le sens de la vigne, sinon elle va être contrainte et puis elle ne va pas donner la plénitude de ce qu'elle est.
Et je voudrais juste ajouter quelque chose sur la taille. Donc on a rencontré une autre vigneronne dans le Luberon qui s'appelle Dominique Ovette. Et quand elle donne des cours de taille à ses...
Saint-Rémy-de-Provence,
oui. Quand elle donne des cours de taille à ses employés, elle leur dit « Mettez-vous à la place de la plante, entrez à l'intérieur de la plante, et si vous étiez la plante, est-ce que vous aimeriez pousser par là ou par là ?» Et donc couper de manière logique en vous substituant, en entrant dans l'âme du végétal. Et donc c'est quand même une manière assez singulière d'enseigner l'art de la taille.
Dominique Ovette est assez singulière.
La même Dominique Ovette qu'on entend dans l'épisode 12 de la première saison, qui dit « Mon obsession dans le travail, c'est la finesse et la délicatesse. Plus on a des mouvements brutaux et plus le vin est dur, plus on travaille en douceur, plus il est gourmand. »
Oui, elle a une obsession des tanins fondus. Et donc, dès qu'elle goûte un vin, elle est très, très attentive à la finesse du tanin. Donc, en fait, c'est cette sensation un peu râpeuse ou pas sur la langue. Parfois, on va dire le vin, il est velouté, il enveloppe bien la bouche. Donc, ça veut dire que les tanins sont fondus. On parle même d'un toucher de bouche. Et elle, justement, elle veut absolument un toucher très, très soyeux. Elle est une grande travailleuse, obsessionnelle du travail. Mais elle fait aussi beaucoup de choses assez étonnantes. Par exemple, elle parle à ses levures. Elle vinifie dans des œufs en béton et elle entretient un dialogue avec ses levures. Voilà.
Je fais en sorte que les bactéries soient à l'aise, que les levures soient à l'aise, et je leur parle. Voilà. Une rencontre épique avec Dominique Ovette, qui n'a pas l'air commode, mais qui est assez passionnante.
Qui fait du très bon vin.
Alors, on a parlé rapidement de la douceur. Comment, en fait, être vigneron, c'est faire des choix. Alors nous, on n'est pas vigneron, hein, donc on va vous parler... Et on vous parle là sur la base des témoignages et des gens qu'on a rencontrés depuis 5 ans qu'existe ce podcast. Et puis les 17 épisodes de Filles de Vigne. Et puis il y a même du Radio Vino. Il y a d'autres émissions que vous avez pu faire. Les vignerons font des choix en permanence. Et donc, devant chaque choix, quelque part, il y a un choix qui est plus doux que l'autre. On l'a dit pour la vigne, rogner, c'est-à-dire couper les têtes, ou alors laisser pousser, désherber, arroser d'insecticides, ou alors être en bio, voire en biodynamie avec des... c'est pas tout à fait la même chose d'arroser de Roundup et d'arroser de
verveine.
De verveine, voilà, exactement. Il y a un autre domaine dans lequel les vignerons ont beaucoup de choix à faire, c'est au chai, donc c'est-à-dire à la préparation du vin, une fois que la vendange est rentrée. Et là aussi, il y a plein de façons de le faire. On peut, tu prends Dominique Ovette qui utilise des œufs pour ne pas avoir à remonter, bâtonner. C'est des techniques de vignerons, faire remonter le jus par-dessus et tout. Elle, par exemple, si on reste sur elle, elle considère que ça, tout ça, c'est brutal. C'est beaucoup trop dur, ça va faire du vin dur.
Oui, elle a quelque chose d'assez mystique où elle explique que les mouvements dans un œuf forment des mouvements browniens. Et donc, le vin s'agite de lui-même et suit une forme de mouvement cosmique de l'univers. Et donc, le vin n'a pas besoin de l'intervention humaine. Bon.
Après, de manière générale, en vinification, soit on fait d'une approche chimique, on modifie chimiquement, ce qui est possible, hein, osmose inverse, soufre, etc. En général, les vignerons bio, nature, enfin biodynamique et nature, même si nature n'a pas de vraie définition, enfin bon, on va pas développer là-dessus, mais c'est que des interventions physiques. C'est-à-dire, on monte, on baisse la température, on transfère le vin d'un œuf à l'autre, et même dans les interventions physiques, on a, il faut le faire plutôt en douceur, on utilise plutôt la gravité que les pompes. Parce que pour remonter le vin sur ce qu'on appelle le chapeau dans les cuves, hein, on peut utiliser une pompe. En général, les filles de vigne que vous avez interviewées, nous les vignerons qu'on interviewe, disent que voilà, là ça brutalise quand même le vin, ça brutalise les levures, et c'est mieux d'utiliser la gravité pour passer d'une cuve qui est en hauteur, par exemple, à une cuve qui est en verticale. Et donc, voilà, la douceur s'exprime aussi dans le traitement physique, on va dire, plus ou moins doux de ces cuves pendant l'élevage.
Est-ce qu'il y a aussi une approche? Je pense aux vignerons et au domaine de Champagne, par exemple, où la tradition en Champagne, dans les grandes maisons, vous savez qu'en Champagne, il faut quand même dissocier les grandes maisons et les champagnes vignerons. En Champagne, on a une approche dans les grandes maisons un peu différente, qui est de faire chaque année, rigoureusement, le même vin. Quitte à mélanger des millésimes, alors c'est vraiment propre à la Champagne, hein, mais quitte à mélanger des millésimes en cherchant ce qu'ils appellent une signature. L'autre approche, et la plus fréquente, la plus répandue, c'est le millésime. C'est-à-dire, justement, chaque année, on va s'adapter à une nouvelle histoire qui est racontée. Est-ce que là aussi se noue pas quelque chose entre contraindre ce que m'a donné la nature pour l'amener à goûter tel que je souhaite que ça goûte, ou au contraire, être à l'écoute pleinement du millésime et se dire, bah, cette année, c'est solaire, il va falloir peut-être accompagner pour que ce soit pas trop solaire. Cette année, c'est un peu juteux, il va falloir... réduire peut-être pour que ça ait quand même du goût.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'adore le champagne aussi. L'approche que tu as décrite non millésimée, elle est revendiquée et expliquée. D'ailleurs, les champagnes sont non millésimées volontairement pour garder une identité. À la limite, ça peut tout à fait se concevoir. Et ils ont aussi l'option de millésimer.
Quand un millésime est exceptionnel, ils font un millésime.
Ce qui arrive souvent. Donc, bon, c'était pour faire un petit peu une réponse technique là-dessus. Sur le reste, effectivement, d'une certaine manière, on n'a pas le choix quand on est vigneron et qu'on n'a pas de quoi immobiliser pendant des années des jus ou des vins tranquilles. On sort le vin l'année suivante ou quelques années suivantes. En fait, c'est une contrainte bassement matérielle ou presque, hein, et qui correspond très bien à la façon ensuite dont on peut lire le vin, qui correspond effectivement à telle année, tel millésime, il s'est passé ça. Mais c'est un ensemble, l'approche
puis, globale. Il me semble que ce concept de douceur fait aussi écho à une forme d'humilité du vigneron face à la nature. Et souvent, on a les vignerons. Il y a une question qu'on aime bien poser, c'est quelle était votre idée de vin? Quand on rencontre un vigneron, est-ce que vous êtes à votre idée de vin? Est-ce que le vin que vous avez fait correspond bien à l'idée? Et il y a quand même deux écoles. Il y a ceux qui disent, oui, c'est mon vin, moi je voulais qu'il soit comme ça, il est comme ça. Et il y a ceux qui font un pas de côté et disent, vous savez, moi j'accompagne et mon idée de vin, elle n'a pas tellement d'importance. C'est La vigne, c'est mon terroir qui m'a donné ça. C'est un ensemble de choses, la météo, l'âge des vignes. Enfin, il y a un nombre de paramètres incroyables. Cette humilité-là, c'est aussi une puissance de la douceur.
Alors, je crois qu'on ne peut pas comparer les marchés, en réalité. C'est-à-dire les grandes maisons de champagne
qui appartiennent à des grands groupes.
Non, mais quand même, c'est important de faire le distinguo, qui vendent aussi à un certain type de clientèle. Ouais. Et puis, un autre marché qui serait celui des vins nature, qui, au contraire, cherchent une pâte de vigneron, un vin d'auteur, et sont d'accord avec l'idée que parfois, les vins sont un petit peu inégaux, vivants, comme on dit. Et donc, d'une année à l'autre, ce n'est pas tout à fait le même vin, etc. Parce que les clients suivent un vigneron, comme on suivrait aussi un auteur ou un réalisateur. Il y a un rapport au vin qui est quasiment celui de l'œuvre. Les produits dont vous parlez, je choisis ce mot, ce produit d'un champagne de grande maison. Ce sont des produits standardisés, calibrés pour un marché, exactement comme des belles jolies tomates qui arrivent sur le marché, qui sont toutes parfaites, qui ressemblent à une boule rouge, mais qui n'ont aucun goût. Eh bien, c'est un peu l'équivalent.
Contraindre, c'est pas trouver la puissance, en fait. Peut-être la puissance économique pour certains, mais...
Tout à fait. Et juste pour revenir sur le vin, la puissance de la douceur, il y a des vins doux, puisqu'on on a introduit sur les vins doux. Les vins doux, ils sont bons quand ils sont puissants, quand ils ont de l'acidité. Un vin doux qui n'est que doux, en tout cas dans l'acception moderne qu'on en a, il est pâteux, il est pas bon, il est pas acceptable. Et dans le vin, comme dans la philosophie du Fomentel, la vraie opposition, en fait, à la douceur, c'est pas la violence, c'est la mièvrerie, c'est la douceâtrie. Donc,
juste la douceur pour... sans fond, en fait.
C'est la douceur sans puissance, sans colonne vertébrale. Alors là, dans le vin, on dirait sans acidité. Dans la douceur des vignerons, ce serait sans l'écoute de leur terroir, sans le fait d'être en lien avec eux. Mais voilà, juste pour dire que les vins doux, parce qu'on a dans notre verre, alors je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais les vins doux, c'est pas des vins doucâtres, c'est des vins qui ont une force, qui ont une acidité et qui ont un équilibre. Et donc la vraie douceur, c'est l'équilibre entre l'écoute, la sensibilité, la délicatesse, mais une force, une tension et une direction apportée par l'acidité d'un cépage ou la volonté de faire un très beau vin si c'est un vigneron et un horizon, quoi, une direction et une volonté de bien faire les choses.
J'aimerais peut-être finir, vous soumettre en fait plus une idée. Est-ce que dans cette logique de la douceur, c'est pas aussi de laisser libre cours, nous en tant que dégustateurs en fait. On n'est pas vignerons, on aime le vin, on déguste des vins. Est-ce que c'est pas aussi de l'ordre de la douceur de laisser libre cours à ses sensations en oubliant un peu les préjugés, les codes appris, acquis, transmis par opposition un peu au sommelier qui déroule une grille de lecture cartésienne.
Certains sommeliers.
Certains.
Ou l'image négative qu'on a des sommeliers.
C'est un peu l'école de la sommellerie un peu classique. Voilà, ouvrir le catalogue et dire ça goûte ça, ça goûte ça, ça goûte ça, donc ça vient de là. Est-ce qu'on est dans le registre de la douceur quand on prend un vin et puis la première chose qu'on fait, c'est de le compartimenter comme ça. Voilà, je range ça là, je range ça là, je range ça là.
Ouais, je suis pas sûr de la réponse, mais ce qui est vrai, c'est que si on est attentif plutôt que directif, on va pas avoir la même expérience. Est-ce qu'il faut la décrire plus douce ? Je n'ai pas de réponse à ta question, en fait. Ça me paraît pas incompatible.
Non, nous, c'était Bruno Queniaux qu'on interviewait qui disait, voilà, le vin, c'est une rencontre. Donc, voilà, chaque vin est une rencontre. Donc, il faut essayer d'abord d'être à l'écoute du vin, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que souvent, on connaît l'étiquette, donc on s'attend au Beaujolais, il va être acide, etc. Non, il était un peu riche, il était un peu gourmand, le Beaujolais qu'on a eu. Et donc voilà, c'est le vin et l'individu, c'est dessus. Enfin, si on veut essayer d'avoir une approche, d'abord, il ne faut pas être forcément sachant, on peut être humble. Et donc, il faut être plutôt en sensibilité. Et c'est plus une rencontre de deux individus. Je mets des guillemets, bien sûr, pour le vin est un individu, mais il a une personnalité. Et donc, d'être en écoute et dans l'immédiateté du contact avec le vin.
Je voulais juste ajouter que le contexte de dégustation est très particulier, même en termes de sociologie, et donc faire surgir des émotions, être assez à l'aise pour dire « je trouve que ça a un goût de pamplemousse ou de betterave », c'est quand même pas si évident. Il faut se faire confiance, avoir confiance dans les gens qui sont autour de nous. Et donc Laurent anime souvent des ateliers de dégustation, et c'est quelque chose dont on parle très souvent, le lexique du vin, et à quel point les gens peuvent être inhibés dans l'expression même aussi de leurs sentiments. Comme si justement il fallait dérouler ce que tu as dit, c'est-à-dire comme s'il y avait des bonnes réponses, des réponses de sommellerie, et qu'on ne pouvait pas dire des choses un peu étonnantes, alors qu'il y a plein de choses étonnantes dans le vin. Ça peut avoir un nez de photocopieuse et une bouche de gravier. Enfin, ça peut tout à fait arriver, mais ça on ne le trouvera pas dans l'école de sommellerie de Lausanne. Ça...
Oui, mais tout à fait. C'est lié au le vin a un statut quand même particulier. On va pas se mentir. Et même le vin nature, ça reste un produit. Qu'il faut pouvoir s'offrir, donc qui n'est pas abordable, c'est un produit de luxe, et les personnes qui osent en parler, enfin qui savent, les sachants, comme tu disais, en parler, ont en général un statut social et socio-économique assez élevé. Donc, c'est pour ça que c'est très très intimidant le vin, hein. C'est pas le seul produit comme ça, la musique, l'opéra par exemple, ouais. Des choses qui sont plutôt réservées à des gens avec d'un certain milieu social, ouais.
D'où l'importance de casser ces codes. Ça m'évoque une planche dans la bande dessinée ou le roman graphique plutôt In Vino Femina d'Alessandra Fotorino qu'on a reçu. L'épisode n'est pas encore diffusé, mais il le sera bientôt. On a une mamie lors d'une dégustation qui justement découvre qu'elle aussi elle a des sens et qu'elle peut donner son avis sur le vin. Voilà, il me semble qu'il y a aussi de la douceur dans cette révélation à soi-même de se dire oui, je peux écouter.
Et c'est encore plus dur pour les femmes, si je peux me permettre de raccrocher à Fille de Vigne.
C'est le sujet de Vino Femina en plus.
Traditionnellement, on remettait quand même la carte des vins à l'homme à table. C'est quand même papa ou le grand-père qui a une cave et qui explique à toute la table à Noël ou aux grandes occasions, qui va faire le roman du vin qu'on est en train de boire. C'est quand même très difficile d'être une femme, et même une jeune femme comme Alessandra Fotorino, qui explique très bien dans ce livre, elle est sommelière et formatrice, à quel point elle a dû lutter pour se faire entendre et puis pour qu'on la prenne au sérieux lorsqu'elle fait l'éloge d'un vin. Voilà.
Et elle a une approche qui est justement celle de la douceur, si on peut reprendre encore ce terme, et la force qui peut s'en dégager, c'est-à-dire d'abord j'écoute ce que le vin me raconte, et puis au final la puissance c'est que parfois j'ai raison, enfin, je donne des éléments qui ont autant de valeur que ceux d'un homme, ou même d'un professionnel, ou de quelqu'un qui s'improvise donner son avis sur un vin. On arrive au terme de la session. Il reste un petit peu de bouteille, donc si vous voulez, on va pouvoir resservir un petit peu de vin. On a un petit vin doux. Alors, on pourra partager aussi, mais on n'a pas autant, donc tout le monde n'en aura pas. Mais on voulait quand même finir avec cette logique de vin doux. Patrice, c'est quoi un vin doux ? Tu nous rappelles ? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais techniquement...
Un vin doux, ça peut être soit un vin liquoreux, c'est-à-dire un vin qui a vinifié normalement, mais qui a gardé un fort taux de... comme on dit, de sucre résiduel, ou ça peut être un vin doux naturel, c'est-à-dire qu'un vin en lequel on a rajouté de l'alcool neutre vinique à 96 pour couper la fermentation et garder un certain niveau de sucrosité, comme sont les morilles, les collioures, les vins de ce type-là. Et les vins liquoreux, c'est plutôt typiquement, entre guillemets, les sauternes ou certains vins de Loire ou certains vendanges tardives comme on retrouve en Alsace. Et là, nous avons donc dans le verre...
Laurent.
Oui, alors tu le présentes, vas-y.
Bah, Marie-Ève,
Marie-Ève.
Merci.
C'est une vigneronne que vous avez rencontrée.
Oui, tout à fait. Marie-Charlotte Pinelli, qui est une très très jeune femme, qui a 22-23 ans, 25 maintenant. Bon, elle est quand même très jeune. Et puis elle est à Patrimonio, donc tout au nord de la Corse. Et elle fait ce vin avec un cépage qui s'appelle Muscat Petit Grain. Et il est absolument... intéressant. Moi, j'aime pas du tout les vins doux.
Voilà, mais c'est ça que j'allais vous dire.
Celui-là, je le trouve
pas. Vous aimez pas les vins doux.
Et en fait, non. On l'a goûté avec Honte elle sur un fromage sec comme un pecorino.
C'est merveilleux.
Et ça marchait très très bien. Donc, par exemple, je trouve qu'une erreur avec le vin doux, c'est de manger un dessert. C'est beaucoup trop sucré, alors qu'en fait, si on l'associe avec un mets très salé comme le fromage, ça marche très bien. Et là, ce vin, il est parfaitement équilibré, très très solaire, très beau.
Très forte acidité.
Très forte acidité, dit Laurent.
La beauté des vins doux. On a fait deux épisodes sur les vins doux.
De toute façon, un vin doux qui n'a pas d'acidité, ça ne marche pas.
Les vins doux n'ont pas beaucoup la cote, mais pourtant, ils sont assez extraordinaires.
Il est miellé, il y a du coin, c'est très intéressant.
Comme on arrive au bout, on pourrait continuer à parler longtemps de ces questions de la douceur. On va on va quand même se quitter, malheureusement. J'avais noté un petit quiz douceur. Ça vous plaît ou pas, le concept? On va se terminer là-dessus, sur le générique. Je vais vous proposer des choix. Vous allez me dire lequel est doux, plus doux, pas doux, moins doux. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Alors, boire dans un verre en carton ou dans un vrai verre à vin? Qu'est-ce qui est doux? Non, c'est dur, il faut dire, c'est dur. On est obligé, pour des raisons de sécurité, de boire dans des verres en carton. Non,
évidemment que c'est mieux dans du verre.
C'est mieux dans des verres.
Mais le carton, c'est plus doux que le verre, au toucher.
Mais ça change un peu le goût, quand même.
Fût de chêne ou œuf béton? Qu'est-ce qui est plus doux?
Œuf béton, pour moi.
Définitivement. Bah, Dominique Ovette.
Forcément, les tanins seront beaucoup plus fondus.
Il n'y a pas le bois.
Il y a un passage, d'ailleurs, sur le... côté matrice de l'œuf, côté maternité, c'est le nom de l'épisode d'ailleurs, maternité, où une vendange c'est un enfantement, qui est un passage très intéressant. Pigeage ou bâtonnage? Terme technique, excusez-moi.
Aucun, en général.
Aucun.
Vin doux ou vendange tardive?
Pour moi, c'est pareil. D'ailleurs, les vendanges tardives sont des vins doux. Mais
sont plutôt, des vins doux.
Plutôt petite préférence. Grain noble, oui.
Alors moi, je vais dire vin de glace. Hein.
Ah, ça, c'est ton côté, c'est canadien.
Côté québécois, oui.
Parce que le Canada est l'invité du Paris Podcast Festival cette année. Et Marie-Ève, tu es canadienne.
Et oui,
on attend la fin de l'émission pour le dire. Comme ça ne s'entend plus. Voilà, bon, le quiz. Il y avait nature ou vegan? Qu'est-ce qui est plus doux?
Nature.
Et vegan,
peut-être. Non, parce que si on utilise de l'œuf pour le filtrer.
Le collage. Bio ou biodynamie?
Biodynamie.
Ça, c'est un sujet. Pour vous, c'est un fondement fort, une conviction, la biodynamie, c'est
la voie. Biodynamie, il n'y a juste pas de débat, en fait, parce que le bio permet de certains intrants, certains types d'insecticides. Le cahier des charges bio permet. Donc, si tu fais un cahier des charges bio normal, tu peux considérer les deux. Mais le bio permet certains insecticides, typiquement, que la biodynamie ne permet pas.
Elle est que pour toi, celle-là. Paris ou Montréal?
Les deux.
C'est plus doux de vivre à Paris ou...
Cool, hein. c'est pas la question.
C'est plus doux, j'ai dit.
Ah, doux.
Ah, moi, je suis sur le doux, là. Je ne quitte pas mon thème. Hein.
C'est plus doux de vivre à Montréal.
Ah, ouais. Pourtant, tu restes là. La terre à boire ou fille de vigne? Allez, on n'est pas obligé de répondre à cette question. Merci beaucoup.
Merci.
On cherche tous la douceur dans les vins et dans la vie en général et dans le podcast, pourquoi pas. Merci Laurent Le Costumaire.
Merci Romain.
Et bravo pour ce travail sur Fille de Vigne, mise en onde et d'accompagnement musical. Merci beaucoup Marie-Ève Lacasse.
Merci à toi Romain.
D'être venu ici. Merci pour ces superbes épisodes de Fille de Vigne. Il y en a... On peut s'attendre à en avoir quelques-uns, peut-être, d'ici la fin de... Hein. Bon, c'est en cours. Par contre, il y a un livre qui va bientôt sortir.
Oui, mais qui n'a rien à voir avec Fille de Vigne. Voilà. C'est un roman qui sort au seuil en mars, dans lequel il y a une vigneronne.
Ah, ben voilà. Qui n'est pas Dominique Ovette.
Non.
Ce serait plutôt Catherine Bernard.
Merci à tous les deux. Merci, Patrice. On va se retrouver. La prochaine fois, ce ne sera pas comme ça. Hein. Ce sera dans notre petit studio avec beaucoup moins de gens.
On n'avait pas dit merci, non ?
Ou ce sera peut-être au Wine Therapy. Pour fêter la centième, parce que j'ai dit c'est le 98e, et là on prépare du coup quand même la centième et les 5 ans, puisque c'est les 5 ans du podcast, c'était les 5 ans du podcast il y a quelques jours. Donc voilà, on vous invite à venir boire un coup, peut-être au Wine Therapy, qui est le bar à vin de notre ami Laurent Delso, qui est d'habitude avec nous au micro, mais qui n'en est pas là, puisqu'il est précisément derrière son comptoir. Merci Hélène Carbonel, Thibaut de Saint-Maurice, Nina Cohen et toute l'équipe du Paris Podcast Festival de nous avoir fait cette invitation qui nous touche beaucoup. Merci aux techniciens de la Gaîté Lyrique, Guillaume et Marc, qui ont fait le son.
Merci aux bénévoles qui ont servi les vins.
Merci aux bénévoles du Paris Podcast Festival qui ont versé le vin dans les verres. Et voilà, et ben, merci à vous de nous écouter, enfin tous ceux qui nous écoutent. Merci à Viamo qui est notre partenaire, vous pouvez aller faire un tour sur leur site, Interrone aussi qui nous a permis de financer quelques épisodes et donc de faire vivre ce podcast. À bientôt pour la centième, et je voulais terminer juste en vous disant que si le sujet du vin vous intéresse, a priori peut-être parce que vous êtes là, on avait créé il y a quelques temps avec toi Laurent une page qui s'appelle winecasters.com qui recense tous les podcasts, enfin tous, peut-être n'y sont-ils pas tous, mais
ceux qui sont bien,
l'essentiel des podcasts, des winecasts francophones sur le vin. Voilà, un grand merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci Paris.
darling, it's